voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Camille Jusa rencontre Mathalie Crasset. Ce soir, Philippe Starck et la grande industrie.
Mathalie Crasset, bonsoir.
Bonsoir.
Nous poursuivons ce soir notre conversation commencée hier. Nous sommes ici chez vous, à Paris, dans votre appartement, qui est aussi votre agence. Je rappelle que vous êtes designeuse, mais dans un sens assez extensible, celui qui ne met pas de limite au design. Vous créez des objets, bien sûr, aussi différents qu'un service de table, une lampe, du mobilier, comme un lit d'appoint pour les amis qui voudraient rester dormir, un tabouret qui se déroule pour faire une sieste. Mais vous faites aussi du graphisme, de la scénographie. Vous n'avez pas peur de la taille de vos objets, puisque vous aménagez aussi des espaces entiers, comme par exemple la maison des petits au 104 à Paris. Vous avez conçu des hôtels entiers ou encore récemment un musée mobile qui sillonne en ce moment les campagnes françaises. Alors hier, vous nous avez raconté votre enfance en Champagne, une enfance rurale dans une famille d'agriculteurs aisés, mais aussi une enfance dont vous nous avez dit qu'elle avait été teintée d'une grande obsession quand même, celle de s'échapper et de partir. Alors nous reprenons cette discussion au début des années 90. Vous terminez votre école, l'ENSI, les ateliers, un laboratoire très particulier, c'est une école de design, très particulier parce qu'il s'agit en fait dans cette école de développer les liens entre art et industrie et de répondre à l'intérêt croissant des entreprises françaises pour le design, une école dont vous nous disiez hier qu'elle était, elle avait été très généreuse avec vous. Et à la fin de cette école, vous proposez un projet de diplôme que vous appelez la trilogie domestique. Qu'est-ce que c'est que ce projet ?
Alors, comme j'avais beaucoup expérimenté, je me mettais à la place d'un futur employeur et regardant tous ces projets qui n'avaient pas de lien, je me suis dit, péril en la demeure. Je vais, dans ce projet de diplôme, me faire force pour pouvoir, en fait, trouver vraiment ma voie. Qu'est-ce qui va pouvoir me caractériser en tant que designer? Et heureusement, j'ai trouvé cette voie. À l'époque, je parlais de 3 diffuseurs. Alors, pourquoi des diffuseurs? Parce que c'était déjà l'idée de dire que c'est pas l'objet qui est important, mais ce qu'il donne. Donc, déjà, c'est important. Et après, 3 objets pour montrer que c'est déjà une petite collection. Donc, et on arrive avec donner de la lumière, donner de la chaleur, donner de l'eau. C'est 3 projets, fonctions un peu différentes dans la maison. Et l'intention était de dire, on va pas juste donner de la lumière, par exemple, si on fait une lampe, on va y associer des besoins qui sont plus inconscients. Hein. Donc, on a des besoins primaires, mais on peut avoir des besoins secondaires. Ils sont dans l'objet, et donc le designer se doit, en quelque sorte, d'y réfléchir. Un diffuseur de lumière, c'est par exemple, dans le cas de mon diplôme, simplement un cube qui va interagir quand la lumière n'est pas allumée avec l'ambiance de la maison. Un peu l'image d'une petite bougie qui va donner en fait l'activité de la maison, symboliser l'activité de la maison. Puis quand je vais avoir besoin de lumière, je vais prendre une diapositive et je la mets dans ce cube. Et en même temps qu'apparaît la lumière, apparaît sur une face du cube, l'image. Et en l'occurrence, cette image était l'image de mon grand-père. Donc en fait, cette idée de cet objet s'est appelé diffuseur de lumière, d'image et de mémoire. Voilà comment en fait, en quelque sorte, on symbolise que le fait que on n'est pas là pour faire juste une forme, juste une fonction, mais on est là en fait pour embarquer de la symbolique, pour parler de rituels, qui sont en fait en quelque sorte la base de mon travail. Je ne suis pas en fait intéressée par la notion de fonctionnalité à proprement dit. Je pense que faire un objet qui fonctionne, c'est un dû. Mais par contre, je vais essayer de partir plutôt d'un rituel, ce qui nous unit, en fait, manger, dormir, c'est ça mon point de départ. Et je vais voir en quelque sorte comment, à partir de ces fonctions-là, je vais pouvoir donner une intention, c'est-à-dire comment on va pouvoir réinjecter de l'hospitalité, comment on va... Voilà, donc c'est un peu la façon de travailler. Donc très rapidement, j'ai, comment dire, articulé ça dans mon diplôme et ça va me permettre, en fait, à la fois de trouver du travail, mais aussi de continuer cette recherche jusqu'à aujourd'hui, puisque ce qu'on peut appeler ici l'élargissement de la fonction, en quelque sorte, va après se transformer en scénario de vie et après en l'idée de trouver d'autres logiques, en fait. Mais c'est une suite logique autour de la même idée.
Qu'est-ce qu'il y a dans ces objets ? Est-ce qu'il y a beaucoup de technologie ? Est-ce que vous aimez déjà la technologie ?
Oui, il y a beaucoup de technologie. Il y a de la poésie et de la technologie. C'était quand même assez nouveau, et surtout c'était des objets transparents. À l'époque, on était dans des espèces de capotage en plastique, hein. D'abord c'était ce qu'apprenait le métier de designer industriel, et moi je suis arrivée avec des objets complètement transparents. On voyait la mécanique à l'intérieur, j'avais envie de révéler aussi et trouver la façon de donner l'accès, puisqu'en fait à l'époque c'était plutôt cachons tout, donc au contraire je voulais qu'il y ait une espèce de compréhension du fonctionnement de l'objet, et d'être domestique la technologie. Donc c'était déjà dans ce projet de diplôme. Quand j'ai passé mon diplôme, qui est une vraie étape en fait à l'école, puis ça dure une demi-journée, on m'a simplement dit c'est bien, continuez comme ça. Mais voilà, je suis restée avec ce... Alors que pour moi, j'avais eu l'impression, vous voyez, d'avoir fait un effort majeur pour essayer de... Mais en fait, on le fait pour soi, on ne le fait pas pour les autres. Et donc, c'est quand même ce qui a été en fait un acte fondateur de ma pratique et de ma démarche.
Et donc, justement, vous trouvez du travail grâce à ce diplôme.
Oui, alors je vais travailler à Milan parce qu'en fait, je coupe le cordon avec l'école. Je me dis, la meilleure façon de faire, c'est d'aller à Milan. Et là, en regardant un petit peu sur le travail des designers, à chaque fois que je vois un projet de Denis Santacchiara, je me dis, tiens, j'aurais bien aimé avoir fait ce projet-là. Et c'est un personnage atypique qui est très peu connu dans le milieu du design, mais qui est très, très important, je pense, puisqu'il est autodidacte, il était plutôt artiste au départ, il devient designer, mais il a fait des choses assez incroyables. Il a par exemple fait une exposition manifeste à Beaubourg en 84, ça s'appelait le Néo-Merch, qui était en fait l'idée de proposer des avec de la technologie, des objets en fait qui procurent une extase artificielle. Donc beaucoup, beaucoup d'inventions, d'humour et de prise de position, d'engagement. Et donc je me disais que commencer avec Denis Santacchiara, c'était quelque chose qui, pour moi, était plus facile, puisqu'on avait en quelque sorte une espèce de base commune, en fait, de réflexion. Et vraiment, c'était à la fois aussi une petite structure. Donc, j'ai vu comment on pouvait à la fois rester petit, mais faire des choses qu'on aime, engager. Lui aussi faisait de la scénographie, de l'objet, etc. Il avait une pratique assez large.
Et qu'est-ce que vous faites du coup chez lui pendant un an ? Sur quel type de projet vous travaillez ?
Je travaille sur les projets du quotidien. Il a lancé en fait une petite marque qui s'appelle Domo Dynamica, qui est très 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 intéressante. Et par exemple, un de ses projets, c'est de proposer une petite veilleuse. Et sa veilleuse, c'est un petit projecteur. Et en fait, on voit les petits moutons passer, voyez ? Donc c'est ce genre de projet, donc à la fois technologique, mais à la fois pour l'époque, la projection, et à la fois très poétique. Donc je vais travailler à la fois pour ce projet d'Homo Dynamica, lancer une nouvelle marque en quelque sorte, avec des produits très très différents. Je vais aussi travailler sur la configuration du musée de la magie à Blois, parce qu'il était invité à y réfléchir à l'époque, sur plein de choses différentes. Mais ce qui différencie en fait son approche et la mienne, Denis aime bien avoir un côté magique dans l'objet, ce que je voudrais éviter. Voilà. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de cet effet magique. Je pense que la technologie, elle est là en fait au quotidien, mais on n'a pas besoin de lui donner cet aspect magique.
Et puis, vous rentrez à Paris.
Oui.
Et vous écrivez quelques lettres.
Voilà, trois lettres en tout.
Dont une au designer Philippe Stark, qui vous embauche.
Voilà. Alors, chez Stark, j'ai eu la chance aussi, il avait besoin de recruter pour ce projet de Thomson Multimédia. Donc, au départ, je suis restée 6 mois dans l'agence, proprement dire, travailler sur des projets de mobilier, etc. Puis, il avait déjà, en fait, signé ce contrat. Et petit à petit, je suis devenue responsable de ce projet, qui est un projet immense et qui, en fait, en quelque sorte, une vraie aventure industrielle pour un groupe international, mais d'origine française, où, pour une fois, on allait donner de l'importance au design. Et ça, c'est quand même... je suis assez contente d'avoir fait partie de cette aventure. Travailler avec Stark, c'est à la fois faire partie d'une tribu. Au début, On doit montrer qu'on peut faire partie de cette tribu, mais une fois qu'on fait partie de cette tribu, là, en fait, vous voyez, on a la possibilité de faire énormément de choses. Et donc, au bout de 6 mois, je me retrouve à la fois responsable de ce projet qui est énorme et responsable du Team Tom, du groupe de designers intégrés chez Thomson. Donc, j'ai 26 ans. Quand on fait des projets électroniques, des télés, voilà, c'est pas forcément au début de sa carrière. Mais là, je me lance dans cette aventure. Le faire avec Stark, c'est aussi quelque chose de complètement différent, puisque Thomson, c'est une grande entreprise internationale, mais d'un seul coup, Stark a carte blanche, en fait, en quelque sorte, pour travailler non pas sur une petite gamme design comme ça, mais sur l'ensemble des projets. Donc ça, il faut voir aussi que c'est quelque chose de très atypique, en fait, dans le système industriel français. La tâche est immense, en fait. Il y a 7 marques. Petit à petit, on va en recréer 3, tout restructurer. Et mon rôle aussi, c'est en quelque sorte, c'est non seulement d'être designer, mais aussi de faire en sorte que la cellule de création puisse être articulée entre des designers qui sont là, qui ont vraiment la culture de l'entreprise depuis pas mal de temps, et des petits jeunes qui arrivent, qui eux, par exemple, ne savent pas clairement comment s'injecte une pièce en plastique, surtout de la complexité d'un objet électronique, de faire en fait cohabiter ces profils complètement différents, et de faire en sorte qu'ils se sentent bien, parce que moi, je défends le fait que si on se sent pas bien dans une structure, pour les créatifs, ça veut dire qu'ils vont pas donner le meilleur d'eux-mêmes ou qu'ils vont pas donner justement cette partie intime qui va être la plus sensible. Donc mon rôle, il est là, il est d'équilibrer, de trouver la façon, dans un énorme groupe comme ça, de faire en sorte qu'on puisse faire notre métier et en même temps, le design devenant une force de proposition dans l'entreprise. Alors vous pouvez imaginer ce que ça peut impliquer en termes de lutte de pouvoir, etc. Mais j'avais cette espèce de naïveté. Moi, j'étais sortie de l'ENSI où il suffisait d'aller voir quelqu'un pour aller discuter d'un projet. Et voilà, donc on faisait la même chose avec Stark. On invitait les gens qu'on sentait moteurs et on mettait tout le monde en réunion. Et voilà, on faisait les choses avec les gens qui avaient envie de bouger, puisque notre rôle était en quelque sorte de ça. L'entreprise était en quelque sorte un peu en problème, puisque 80% de son chiffre d'affaires dépendait des tubes cathodiques. Et là, c'était la fin des tubes cathodiques. Donc en fait, le PDG avait vu en Stark sa capacité en fait de quelque part imploser le système en interne. C'était le plus rapide, vous voyez, de façon à restructurer autour du multimédia, en fait, qui arrivait. Donc voilà, c'était un projet formidable, à la fois une aventure humaine. J'ai aussi côtoyé Stark dans une relation un peu différente, puisqu'en fait, il venait une fois par semaine chez Thomson, et il avait une autre façon de fonctionner que quand il était dans son agence, bien sûr. On avait aussi la possibilité de dessiner, de proposer des choses, et il proposait aussi des choses. Et en fait, il faisait aussi une sélection parmi nos idées, donc ce qui n'était pas forcément le cas dans son agence. Et voilà, et ça a été une période pour moi énorme d'apprentissage, de réflexion aussi, puisque je voyais le projet se faire non seulement à l'intérieur de l'entreprise, mais du début à la fin, puisque tout était remis en cause, y compris la distribution. Ça a été, je dois dire, un conte de fées, encore une fois.
Mathalie Crasset, c'est assez étonnant quand on regarde la liste des objets que vous dessinez à ce moment-là pour le Team Tom, hein, donc pour le département design de Thomson Multimédia. On voit un baladeur lecteur cassette, c'est vraiment des objets d'avant, hein. C'est amusant. Un téléviseur mono 61 cm, un téléviseur mono 53 cm, un radiocassette, un support pour télévision et magnétoscope, un téléphone sans fil avec répondeur digital. Donc, à la fois des objets extrêmement banals, mais sans doute assez difficiles et ingrats. Comment vous voulez travailler ? Qu'est-ce qui vous amuse dans le fait de vous emparer de ces objets qui vont quand même trôner au milieu du salon des gens ? Enfin, c'est pas rien.
Alors,
ces objets.
Oui, c'est pas rien, mais en même temps, on a eu cette énorme chance de pouvoir remettre en cause les choses, et on s'est très vite aperçu, et Philippe Stark en premier, que la façon dont étaient construits les objets électroniques avec ce qu'on appelait les features, rajouter une petite touche pour faire quelque chose que moitié des gens ne comprenaient pas, n'était pas en fait la meilleure façon de faire, et donc on a Par exemple, on proposait un magnétoscope qu'avec 8 touches, mais 8 touches énormes qui faisaient toute la façade du magnétoscope. C'était complètement disruptif. À l'époque, il n'y avait pas du tout cette démarche-là. On a commencé, bien sûr, à colorer les produits, etc. On a aussi mis des projets transparents bien avant Apple, je le précise. Mais cette bonne vieille maison de Thomson, qui était identifiée surtout pour sa capacité d'innovation aussi, parce qu'il y avait quand même une recherche et développement très, 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 très forte. En fait, il y avait une espèce d'inadéquation, vous voyez, entre la direction, qui était un virage, en fait, en quelque sorte, très, très fort, et l'identité de Thomson, qui était vieillissante, en quelque sorte. Mais on travaillait aussi sur de la prospective, donc ça, puisque à l'époque, il n'y a pas beaucoup d'entreprises de ce type qui créaient, en fait, des hypothèses, hein, et qui les formalisaient et qui les montraient, hein, parce qu'on les montrait sur les salons, un peu à l'exemple des voitures, en fait, des projets de prospective de voitures. Voilà, donc ça a été un projet complet, très très fort, très très intense. En même temps, je sentais que j'avais besoin de continuer à avoir ma propre démarche, parce que j'avais envie aussi, j'avais initié quelque chose à l'école, et donc en parallèle, j'ai continué à faire mes projets. Et je sentais que c'était vital, parce que c'est important, en fait, de considérer que cette structure vivante, en fait, créative, cette dynamique dont je parlais tout à l'heure, elle se doit d'être entretenue, de travailler au quotidien avec, de façon à toujours la faire avancer, l'affiner, etc.
Mathalie Crasset, Philippe Starck, c'est pas non plus n'importe qui, c'est vraiment un créateur ultra prolifique qui a exploré aussi tous les champs du design, de la brosse à dents jusqu'au bateau de Steve Jobs, en passant par toutes sortes de mobilier. Il incarne vraiment, ces Golden 80s, les années Mitterrand, avec une sorte de mélange. Il est à la fois, il a un discours un peu intellectuel, mais aussi un peu publicitaire, spectaculaire. Il est quand même le premier designer français à devenir un designer très médiatique. Mmh. Hein, il est quasiment lui-même une marque. Il fait du design quelque chose d'assez branché dans les années 80. Comment vous regardez cette figure à l'époque? Est-ce que vous vous dites que ça va être ça, votre chemin? Comment vous vous positionnez par rapport à cette figure du designer?
Non, mais je pense qu'à l'époque, c'était un peu nécessaire, parce qu'il faut se rappeler que le design n'était pas connu. Donc, Starck a fait cette énorme chose de donner une réalité économique au design. Et ça, on peut pas lui retirer ça. Et en plus, il a ouvert toutes les portes par rapport à tous les maîtres italiens qui, eux, ont vraiment occupé le terrain. Starck a eu cette générosité pour notre génération d'ouvrir les possibles, en fait. Et ça a été beaucoup plus facile pour nous, après, de pouvoir aller proposer des choses dans des contextes un peu particuliers, puisque lui aussi, en fait, il n'avait pas trop de limites. Il faisait des choses dans des secteurs complètement différents, vous voyez. Donc, Starck a été très, très, très important pour le design. Après, on peut aimer ou pas son travail, mais on ne peut pas lui retirer ça.
Alors, ce qui est amusant, c'est que cette aventure avec la grande industrie, avec Thomson Multimédia, vous l'avez de nouveau vécu, puisque depuis 2012, vous collaborez avec IKEA. Et donc, vous avez retrouvé ces objets du quotidien, mais produits à très, très, très grande échelle. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette production à très grande échelle ?
C'est la base de mon métier d'origine, en fait, hein, le design industriel. Après, on n'a pas beaucoup l'occasion de pouvoir le faire, en fait, puisqu'en général, on travaille plutôt sur des séries qui sont limitées. Et je suis très fière d'avoir collaboré avec IKEA. D'abord parce que quand on regarde le projet que j'ai fait, c'est moitié IKEA et c'est moitié Matalier. Ça, c'est important pour moi. Je vais citer juste la petite lampe qui vient de sortir, qui est encore dans les magasins, et qui fait partie de la collection PS, donc Postscriptum. Donc c'est une collection où, en fait, on a un peu plus de liberté de proposer des choses en dehors, en fait, des standards, on va dire. Et je voulais, en fait, accompagner l'arrivée des LED, puisqu'on sait que c'est très important. On consomme énormément d'énergie avec les ampoules incandescentes. Et donc, comment on arrive à articuler ces petites lampes qui sont toute petite, donc une espèce de miniaturisation, et en même temps, notre fonctionnement qui veut qu'on veut qu'on travaille avec, enfin, qu'on vit avec des objets. J'avais entendu aussi à la radio un témoignage de quelqu'un qui a vu arriver l'électricité chez elle, et elle avait vécu en fait mal cette arrivée en disant « il y a une ampoule qui flotte maintenant au milieu de la salle, et en fait, moi avant je portais la lumière. Quand j'allais au lit, je prenais la bougie, je la portais avec moi. » Et donc je me suis dit que la technologie pouvait peut-être nous permettre de revenir à ce type de contact, de mobilité, en tout cas, une portabilité. Donc cette lampe, le pourtour de la lampe ressemble à une lanterne de cheminot, voilà, qui en fait a cette particularité de faire un signe en même temps, hein, donc envoyer des signaux avec un gros rond central. Et donc j'ai repris juste sous forme de structure filaire, et à l'intérieur on a ce petit composant qui va donner de la lumière, et bien sûr on a une grosse poignée, parce que quand l'idée c'est de la porter, de la recharger, et on a 4 heures d'autonomie, donc on va pouvoir s'en servir un peu partout dans la maison, y compris à l'extérieur, et ça peut devenir en fait quelque sorte une lampe d'urgence. Donc en fait, vous voyez comment en fait je peux me baser de quelque chose qui est du domaine du sensible, en même temps vouloir accompagner l'idée d'utiliser ces LED qui sont essentielles par rapport à l'écologie, ou avoir un parti pris écologique, et trouver une formulation pour que ça devienne un vrai outil du quotidien et du domestique.
Alors c'est vrai qu'à l'origine du design, il y a vraiment cette idée d'associer la création à la fabrication industrielle, à la fabrication en très très grande série, en très grand nombre. D'ailleurs, c'est le souci de Jean Prouvé, de Charlotte Perriand, même du Bauhaus, de tout le temps chercher des industriels qui vont pouvoir mettre en œuvre leurs dessins de chaises, de tables, etc., en très très grande série. Et puis, évidemment, quand on est face à des mastodontes comme Thomson ou Ikea, on voit aussi que l'écueil de cette fabrication en immense série, ça va être le meuble en kit et une certaine standardisation. Comment vous faites-vous pour régler cette tension? Parce que c'est la vraie tension du design aussi, du design industriel. À la fois, on voudrait pouvoir répandre des objets beaux, utiles, pratiques, etc. partout, puis en même temps, au bout d'un moment, tous les intérieurs se ressemblent.
Oui, tous les intérieurs se ressemblent, quoique chez IKEA, on a quand même une énorme variété de projets, puis il y a des nouveaux projets qui arrivent. L'idée, c'est que chaque objet doit, en lui-même, porter ce petit pas de côté, en fait. Moi, c'est ce que je... Donc, il doit déjà apporter la diversité. Et donc, moi, je ne dessine pas une chaise pour dessiner une chaise. Il faut qu'il y ait vraiment une attention. Il faut qu'il y ait... Un service rendu qui soit au-delà de juste s'asseoir, qui va par exemple être de transformer le dossier pour pouvoir poser son livre et lire un bouquin, par exemple pour une chaise que j'ai fait pour l'entreprise danaise. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'articule autrement, en fait, tout simplement.
Nathalie Crasset, en 97, toute votre vie va changer, puisque Alain Juppé déclare que Thomson Multimédia, ça vaut même pas le franc symbolique.
Oui, ou le franc symbolique, oui.
Pour lequel il veut céder cette entreprise. Et donc, c'est la fin de votre collaboration avec le Tim Tom.
Oui, et je rentre en fait chez Philippe Starck, dans l'agence. Là, je travaille encore 6 mois. Plus particulièrement sur les expos de Philippe Starck. Et puis après, je décide de prendre mon envol, parce que je pense que voilà, 5 ans, c'est déjà pas mal. Et puis j'ai de plus en plus de sollicitations à côté, et je sens que c'est le moment, voilà, que je suis prête. Autant je n'étais pas prête à la sortie de l'école, autant là, je me sentais, après cette énorme aventure de Thomson Multimédia et de Starck, à écrire en quelque sorte ma propre... à créer mon studio et écrire en quelque sorte ma propre histoire.
Il se trouve ici, donc on est là, oui. Dans votre studio, dans votre agence. On est au fond d'une très jolie cour plantée, dans un bâtiment industriel qui a été divisé en habitations. Quand on entre chez vous, en fait, on entre dans une première pièce qui est un grand bureau,
oui.
Et qui est séparée...
symboliquement avec une porte qui n'est jamais fermée.
et qui est séparée d'une grande pièce à vivre seulement par une bibliothèque, hein, qui fait cloison.
Oui.
C'est là où on est. Alors, Pourquoi vous installez là, dans ce quartier de Faubourg?
Oui.
Et pourquoi travailler chez vous?
Alors, j'ai toujours vécu à l'Est de Paris, déjà, parce que moi, je suis quelqu'un qui entrevoit le monde à travers les projets. Donc, je ne peux pas aller m'inscrire dans un Paris qui est déjà muséifié, parce que ça veut dire, quelque part, que tout est déjà fait. Moi, je n'ai plus d'existence possible. Donc, déjà, l'Est de Paris, c'est... Bon, après, je viens aussi de la Marne, donc c'est direct, hein, c'est la gare de l'Est, gare du Nord, etc. Donc, c'est aussi logique. Hein. Je pense qu'on a une attache comme ça. Mais en fait, c'est ça, c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est la partie qui me semble vivante de Paris, où il reste des choses à faire. Je veux sortir dans la rue et me dire, voilà, ben, il y a des choses à faire. Ça, c'est important. Donc, j'ai toujours l'habitude d'habiter l'Est. D'abord, plutôt Bastille, après Oberkampf, et puis Belleville, en essayant à chaque fois de trouver des surfaces un peu plus grandes. Et là, en l'occurrence, puisque on voulait, en fait, avec Francis, mettre le bureau à côté de la maison. C'est aussi pragmatique, parce que je suis maman. À cette époque-là, Popeline arrive, Artaud plus tard, 4 ans plus tard. Et donc, j'ai une vie très active et je sais que j'ai envie d'être maman, mais j'ai envie de voir mes enfants rentrer pour le goûter. J'ai envie de les accompagner quand je suis là, parce que la plupart du temps aussi, je ne suis pas là tout le temps. Je bouge beaucoup. Et donc, au moins, quand je suis là, je veux profiter de ces moments, parce que ce sont des moments qui sont... court et ça c'est important, et je pense aussi qu'il faut se donner ces moyens quand on le peut, et le design le permet, d'inventer sa propre façon de vivre et de construire en fait une réalité qui nous permet sereinement d'avoir une famille et d'avoir un travail qui nous plaît.
Et alors là, vous venez de reciter de nouveau le nom de Francis, qui est oui. Donc Francis Fichot, qui est votre mari, et vous vous mettez à travailler avec lui dans cette nouvelle agence.
Oui, Francis s'est plutôt occupé d'art auparavant. Il a tenu une galerie d'art, et puis il m'aidait le soir, et puis petit à petit, on a décidé de travailler ensemble. C'est un luxe énorme, puisqu'en fait, Francis va vraiment m'épauler. Pour faire en sorte que je puisse passer mon temps sur les choses sur lesquelles je suis la plus forte, c'est-à-dire la création. Et donc, il va s'occuper de tout ce qui est contractuel, de tout ce qui est mon planning même, voilà, toutes ces choses qui paraissent en fait connexes, mais qui en fait prennent énormément de temps. Et donc, j'ai ce luxe en fait de pouvoir vraiment me consacrer à ce que j'aime vraiment, qui est la création. Dans une parfaite confiance, puisque c'est à la fois mon mari, quelqu'un qui à la fois aime aussi particulièrement s'occuper des enfants et aussi c'est très bien cuisiné, donc qui fait que voilà, c'est un peu un couple inversé en fait, en quelque sorte, puisque moi je vais aussi partir souvent, lui va être la structure en fait qui va permettre aussi de donner aux enfants un cadre de développement plus favorable, on va dire.
Et ce mélange des genres, hein, donc la maison, le studio, votre collaborateur qui est aussi votre mari, est-ce que ça permet d'avoir une très grosse agence ou pas?
La taille de l'agence, elle est claire, elle est toute petite. On a 4 postes, 4 places, en fait, et on peut pas être plus. Et ça, c'est très, très bien. Moi, je défends, en fait, cette taille, parce que je pense qu'on fait pas la même chose quand on est une grande agence ou une petite agence. Et en quelque sorte, je veux être en prise directe avec les projets aussi. Ça, c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens viennent me chercher aussi pour ça, parce qu'en fait, on a une façon assez personnelle et engagée de répondre en fait aux sollicitations. Et ça vient de cette structure-là, j'en suis persuadée.
Et donc, on est en 98 quand vous installez ici, et vous vous mettez au travail, Nathalie Crasset, beaucoup, 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 et vous vous mettez à produire des tas d'objets avec des noms très amusants, notamment ce lit d'appoint qui s'appelle « Quand Jim monte à Paris ». Bref, toute une panoplie d'objets situations, et dont on parlera ensemble demain soir. Merci beaucoup, Nathalie Crasset.
Merci à vous.
Et à demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Camille Jusa avec Nathalie Crasset. À voix nue, réalisation Ghislaine David, prise de son Arthur Gerbeau, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.